Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout terrain. Pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussite personnelle ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Terrain. Nous recevons aujourd'hui Franck Massiello, directeur technique national de l'arbitrage à la Fédération française de rugby, qui va nous éclairer sur le rôle important de l'arbitre dans la pratique du sport de compétition et nous faire découvrir l'arbitrage avec un œil expert. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ce slogan bien connu des amoureux de sport vise à mettre en valeur l'arbitre, rouage essentiel au bon déroulement d'une compétition sportive qui est chargée de diriger un match et de faire respecter les règles du jeu par les adversaires. Il n'est pas celle ou celui dont on parle le plus dans les médias. Mis à part de rares exceptions, M. Pierluigi Collina au football, Nigel Owens au rugby, les arbitres sont dans l'ombre du sport et sont pourtant indispensables au bon déroulement d'un match, que ce soit dans les sports collectifs ou individuels. Un récent sondage Kantar La Poste montre que les Français continuent d'avoir une excellente perception des arbitres. 90% estiment qu'il est le trait d'union entre les joueurs. Et on lui associe les valeurs essentielles du sport. Autorité et respect pour 90% des Français, esprit sportif pour 92%, compétence et confiance pour 90%. Si l'opinion générale est bonne, l'arbitre peut être malmené par les joueurs, entraîneurs et supporters qui l'affublent de noms d'oiseaux et lui imputent parfois la responsabilité d'un résultat sportif. Bien que les sports collectifs français comptent de nombreux arbitres, 25 000 au football, 32 000 au handball, 3 000 au rugby, 8 200 au basket, il faut noter que sur les 5 dernières années, plus de 20 000 arbitres ont rendu leur sifflet, découragés par les critiques, voire les violences verbales ou physiques. Face à cette crise des vocations, plusieurs solutions sont envisagées pour revaloriser la fonction, notamment grâce à des opérations de sensibilisation comme les Journées nationales de l'arbitrage soutenues par La Poste depuis 20 ans, renforcer les sanctions contre les auteurs de violences envers un arbitre ou avoir recours à des innovations technologiques pour rendre les décisions plus objectives. Bonjour Franck Massiello, pouvez-vous vous présenter et décrire votre parcours ?
Bonjour, alors je m'appelle Franck Massiello, je suis directeur technique national de l'arbitrage au sein de la Fédération française de rugby. Je suis moi-même un ancien arbitre de ce qu'on appelle top 14, hein, puisque j'ai officié 18 années à ce niveau-là. À travers ça, j'ai une formation, moi, d'école hôtelière, puisque j'ai enseigné la cuisine dans une vie antérieure. Et puis ensuite, je suis rentré dans une collectivité territoriale pour gérer des services techniques. Voilà, et je suis salarié de la Fédération française de rugby depuis 2012. J'ai occupé donc en premier la fonction de directeur adjoint en charge du secteur professionnel jusqu'en 2016. De 2016 à 2019, j'ai occupé les fonctions du développement de l'arbitrage dans le secteur fédéral. Et à ce jour, j'ai la responsabilité de l'arbitrage français.
Pouvez-vous nous donner une définition de l'arbitrage ?
Ah, l'arbitrage, c'est... Il n'y a pas une définition, mais il y a plusieurs définitions. Je crois que le rugby donc, a besoin d'arbitres, bien sûr, comme une société a besoin de règles. Il n'y a pas de société sans règles. Donc le sport, c'est la même chose. Bien sûr, le rugby, que je connais le mieux, et l'arbitre est justement est là pour faire appliquer cette règle et être un acteur du bon déroulement de nos matchs, afin que nos pratiquants jouent en toute sécurité et prennent du plaisir chaque week-end.
Depuis le 1er juillet 2019, donc vous êtes directeur national de l'arbitrage au sein de la Fédération française de rugby. En quoi consiste votre rôle ? Êtes-vous le pendant d'un DTN pour l'arbitrage ?
On pourrait faire la comparaison. Hein. Effectivement, moi, mes actions se tournent vers, bien sûr, le développement de l'arbitrage, la formation, le recrutement, la féminisation. Toutes les compétences qu'on peut reconnaître à l'arbitrage sont au sein de cette direction.
Vous êtes seul au sein de cette direction ou vous avez des personnes qui travaillent en collaboration avec
Alors,
vous ?
J'ai la chance d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs pour gérer l'ensemble de l'arbitrage français, mais également un très grand socle de bénévoles que je remercie d'ailleurs pour leur sens de l'engagement, car sans eux, effectivement, on ne pourrait pas faire fonctionner l'arbitrage français.
Dans votre rôle au quotidien, vous êtes là pour rappeler aux différents arbitres quelles sont les règles qui sont applicables, quelles sont les règles qui ont changé. Y a-t-il des règles spécifiques au rugby français ou est-on sous la coupe de règles internationales ?
Alors effectivement, mon rôle en fonction des niveaux d'arbitrage, c'est de rappeler au travers nos formateurs nationaux les différentes règles à nos pratiquants. Et nous sommes bien sûr sous l'égide des règles World Rugby, même si la France a un regard très attentif et des règles très spécifiques, notamment en ce qui concerne la protection du joueur.
C'est-à-dire sur la protection du joueur.
C'est-à-dire le niveau de plaquage en catégorie C, C', enfin en rugby amateur, où on doit plaquer au niveau de la ceinture.
Donc des modifications qui ont lieu au fur et à mesure du temps et que vous devez vous faire appliquer par les joueurs sur le terrain.
Exactement, ce sont des modifications. D'abord, nous formons nos arbitres à ces nouvelles règles et après, ensuite, ils viennent les appliquer sur les terrains et éduquer notre population.
Le mot éduquer est important. L'arbitre n'est pas uniquement là pour sanctionner, donc pour appliquer la règle de façon stricto sensu. Comment se comporte un arbitre sur le terrain face à des situations de jeu qui sont contre les règles du jeu? Est-ce qu'il y a toujours la sanction?
Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de société sans règles. Donc effectivement, l'arbitre est là pour faire appliquer les règles, mais il est là aussi pour éduquer une population qui parfois découvre ce sport, et il est là aussi pour avoir un rôle pédagogique.
Donc beaucoup d'échanges sur le terrain avec les joueurs, et peut-être les entraîneurs aussi sur le banc de touche parfois.
Alors peut-être avec les entraîneurs pendant le match, c'est un peu compliqué, mais effectivement avec les joueurs, l'échange est confirmé bien sûr, et privilégie parfois quelques mauvais coups de sifflet.
Vous êtes venu à l'arbitrage après avoir été joueur. Pensez-vous qu'être arbitre est une vocation? Et dans votre cas, pourquoi et comment êtes-vous arrivé à avoir cette envie de prendre le sifflet, comme on dit?
Alors effectivement, hein, j'ai joué au rugby. J'ai toujours aimé prendre le sifflet lors de séances d'entraînement, quand il fallait arbitrer les copains de jeu. J'ai toujours aimé ça. Je pense qu'on ne vient pas à l'arbitrage par hasard. On a un rapport au cadre, certainement à l'autorité, certainement nous sommes des leaders dans notre parcours, où on aime bien orchestrer un petit peu les situations, même si il me plaît de dire qu'un bon arbitre, c'est quelqu'un qui va faire jouer un scénario qui est écrit par d'autres. On doit l'accompagner, ce scénario, et non pas l'imposer. Et c'est ça aussi qui va peut-être différencier le bon du très bon, quoi.
Accompagner donc les joueurs, donc savoir quand intervenir. Je vais vous provoquer un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir une forme de laxisme parfois sur certaines phases de jeu en se disant l'action est belle, il y a un petit en avant, je laisse passer, ou non, c'est pas ça l'accompagnement.
Ah non, c'est pas du tout ça, parce qu'il n'y a pas de petit ou de grand en avant, il y a un avant ou pas un avant. Donc effectivement, dès lors que l'arbitre siffle un avant, c'est qu'il a jugé qu'il y était. Accompagner le jeu, c'est de comprendre le sens du match, de ne pas bouleverser ce fameux scénario, et d'être un acteur à part entière. C'est-à-dire, on a un avantage dans les règles du jeu, c'est de pouvoir trier les fautes. Et l'arbitre doit analyser la faute qui va avoir une conséquence directe sur le jeu, qui va casser une action, et celle qui ne va avoir aucune conséquence sur le jeu. Et celle-ci, il doit la trier, car autrement, on assisterait à un vrai concert de trompettistes.
De mêlée, de touche, de la répétition, j'imagine.
Exactement. Voilà.
Donc, ça demande une certaine concentration, une parfaite connaissance des règles du jeu pour pouvoir mener à la baguette comme un chef d'orchestre cette partition.
Complètement, il faut savoir son règlement, bien sûr, et l'appliquer à bon escient sur le terrain pour bien accompagner les joueurs.
Les joueurs, d'ailleurs, ne sont pas toujours au fait de toutes les règles du jeu.
Non, mais on est un sport qui évolue aussi tellement au niveau des règles. qu'effectivement, il faut du temps. C'est pour ça que j'insiste sur le terme éduquer aussi. On éduque en permanence par rapport aux nouvelles règles, par rapport aux directives que l'on reçoit, nos pratiquants sur les règles du rugby.
Faut-il avoir été joueur pour bien arbitrer?
Non, pas forcément, mais ça aide. Un joueur, bien sûr, va sentir les situations, va savoir où le ballon va aller. Donc, il va avoir, si je puis dire, une compétence qui va l'aider à prendre une décision. Mais en fait, on a connu des illustres arbitres qui n'avaient jamais touché un ballon de rugby et qui ont fait carrière dans l'arbitrage.
Même pour des phases de jeu dans votre sport, le rugby, qui est un sport complexe où il y a des phases de jeu telles les mêlées, les rucks, où finalement on ne voit pas beaucoup le ballon. Alors dans les mêlées, si, on le voit, mais dans les rucks, on ne le voit pas toujours. Avoir joué, ça vous aide aussi à appréhender ce qui peut se passer, ce qui peut se tramer entre ces joueurs sur des phases de jeu très particulières.
Oui, tout à fait. Avoir joué, je vous le disais, c'est une compétence supplémentaire. Mais après, on peut avoir joué arrière et ne rien connaître à la mêlée. Et pourtant, il va falloir arbitrer cette situation. Donc là, la compétence, elle sera minime. L'apport du jeu sera minime. Mais effectivement, après, bien sûr que avoir joué, c'est sentir les bons coups, c'est comprendre les situations d'organisation des défenses ou des attaques. Et effectivement, ça permet d'anticiper une décision.
Vous nous avez dit que vous avez terminé comme arbitre de top 14. Quelle était votre évolution et à quel niveau avez-vous commencé au niveau de l'arbitrage?
Ah ben j'ai commencé comme tout le monde, hein, au bas de l'échelle, si je puis dire, hein, et j'ai arbitré dans ma. À l'époque, on appelait ça les comités. Donc j'ai arbitré dans mon comité, qui était le comité Côte d'Azur. Et puis au fil du temps, j'ai passé les échelons, le concours national du fédéral. Et puis après, on est évalué sur les terrains et on accède aux divisions supérieures.
Il y a un concours alors pour
Oui.
on est dans une forme d'examen.
C'est ça, c'est un examen qui donne un passage et qui permet d'arbitrer pour la fédération.
Et vous aujourd'hui qui êtes le responsable de tous les arbitres français, comment évaluez-vous un arbitre en général sur un terrain, sur sa bonne connaissance des règles, sur sa façon de guider le jeu? Avez-vous des points de repère qui font que vous dites cet arbitre est capable de...
Eh bien exactement, hein. Nous évaluons les arbitres par leurs conditions physiques, par leur connaissance des règles, par leur connaissance du jeu, par leur sens du management. Ce qui est important aussi parce que un arbitre est un manager aussi sur un terrain, hein. Il a affaire à des hommes et des femmes qu'il faut savoir manager. Et dès qu'il réunit toutes les cases, eh bien, ça nous permet d'évaluer une prestation reconnue,
Pour le faire
avancée,
avancer.
tout à fait.
Comment ça se passe? Il y a une commission, il y a,
Exactement.
enfin pour le rugby,
Oui, oui,
c'est...
oui. Les arbitres sont évalués, quelle que soit leur division fédérale, hein, du top 14 à pratiquement à la deuxième division fédérale, ils sont évalués tous les week-ends.
Tous les week-ends.
Enfin, à chaque désignation. Et après, bien sûr, donc nous collectons toutes ces informations, puis la commission se réunit, visionne aussi les vidéos et décide des promotions, voire des rétrogradations, pardon, de nos arbitres.
Le groupe La Poste est partenaire des journées de l'arbitrage depuis un certain temps. Au mois d'octobre 2021, nous fêtons le 20e anniversaire de ce partenariat. C'est un moment important car si l'arbitre est essentiel au bon déroulement d'une rencontre sportive, c'est une fonction qui ne séduit pas forcément les jeunes filles et les jeunes garçons, les ados qui sont en pleine fleur de l'âge pour la pratique. Ces journées de l'arbitrage sont-elles importantes pour cette fonction dans le sport en général, puisque plusieurs sports sont concernés? Pensez-vous que l'arbitrage soit suffisamment mis en valeur dans l'apprentissage du sport chez les jeunes, notamment dans les clubs, à l'école? Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer dans l'arbitrage?
D'abord, je tiens à saluer moi le travail remarquable et constant et fidèle de notre partenaire La Poste, qui, comme vous l'avez souligné, depuis 20 ans accompagne l'arbitrage de plusieurs fédérations. C'est un travail remarquable car je pense que nous partageons les mêmes valeurs, nous avons le même sens d'engagement, nous avons une mission de service public à l'identique et un travail de proximité sur le terrain. Moi, je remercie très sincèrement la Poste qui met en valeur l'arbitrage régulièrement et c'est un partenaire très fidèle. Cela dit, je trouve que on est vraiment au cœur des clubs avec notre action, un arbitre au cœur du club. Chaque arbitre est licencié dans un club et doit être le porte-parole de l'arbitrage au sein de son club. Et nous avons un projet que nous partageons en plus avec la Poste, ça tombe bien, la labellisation des écoles d'arbitrage. On va reconnaître et labelliser toutes les écoles d'arbitrage pour justement promouvoir l'arbitrage auprès des jeunes, mais directement dans leur club. Nous allons aller vers eux et nous n'allons pas demander à ce que les jeunes viennent vers nous. Et je crois que ça aide au développement, parce que même s'ils ne viennent pas ensuite à l'arbitrage, ce n'est pas un problème. Mais un joueur qui maîtrise la règle est un joueur meilleur.
Enfin, très jeune, on pourrait commencer l'arbitrage ou avoir une sensibilisation à 5, 6, 7 ans. On pourrait mettre en situation peut-être des enfants pour les sensibiliser au rôle important de l'arbitre.
Tout à fait, et c'est un peu le principe aussi des écoles d'arbitrage, alors même si elles commencent un peu plus tard, vers 10, 11, 12 ans, c'est exactement le rôle des écoles d'arbitrage au sein des clubs, voire des regroupements de clubs et des territoires.
Pendant ces journées de l'arbitrage, les arbitres sont mis en lumière. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait avoir finalement une mise en lumière plus constante de l'arbitre, plutôt que d'avoir une semaine dans l'année
Moi, je trouve que quand on regarde le secteur professionnel, l'arbitre est souvent mis en lumière parce que bon, tous les matchs sont médiatisés, tous les matchs sont télévisés et on fait énormément de focus sur l'arbitrage. Et d'ailleurs, il y a des émissions télévisées qui mettent en lumière un petit peu les échanges humoristiques que l'on peut avoir avec les joueurs. Mais après, l'arbitre est là pour faire respecter bien sûr les règles, pour qu'on joue dans de bonnes conditions de sécurité. Il n'est pas là pour être une star. Il est là pour s'occuper des autres. Donc cette valorisation passe aussi par le fait qu'il remplit sa mission en s'occupant des autres. La valorisation que l'on a autour des journées de l'arbitrage permet de dire que les arbitres existent, les arbitres sont présents, ils ont un rôle essentiel au bon déroulement de nos rencontres. Mais c'est un petit peu comme du foie gras. Hein. Si on en mange tous les jours, on finit par s'lasser. Alors quand on en profite au moment des fêtes, eh bien, on apprécie le foie gras. Mais l'arbitrage, c'est pareil.
Et quelles sont les actions concrètement menées avec le groupe La Poste pendant ces journées? Il y a des actions fortes qui sont réalisées au sein des établissements scolaires, au sein des clubs. Qu'est-ce qui se passe en pratique?
Alors, au sein des clubs, bien sûr, il va y avoir des actions, des clubs professionnels, il va y avoir des actions fortes qui vont être médiatisées sur toutes les journées télévisées d'un championnat Pro D2 et Top 14. Et après, chaque arbitre s'implique dans son club pour valoriser l'arbitrage au quotidien au sein de son territoire.
On dit que la fonction d'arbitre peut être ingrate et que les joueurs sont parfois agressifs avec l'arbitre. Comment pensez-vous que vous pouvez améliorer la relation joueur, éducateur, entraîneur et arbitre?
Alors, je ne la trouve pas si agressive que ça, moi, la relation joueur. Effectivement, de temps en temps, on voit des joueurs venir contester certaines décisions, mais là aussi, tout le monde monte en performance, donc on a besoin d'explications claires et précise sur ce que l'on vient de siffler. Cela dit, un bon arbitre doit être éducateur, pédagogue, parfois directif, bien sûr, mais expliquer les choses me paraissent, moi, essentielles. Essentielles dans la compréhension et dans l'acceptation. Une décision sifflée et non commentée, alors sans rentrer, bien sûr, dans des dialogues interminables, mais non commentée peut générer de la frustration. Or, une décision commentée, expliquée, va être, il me semble, acceptée par le plus grand nombre.
Et donc, pouvoir comprendre la décision de l'arbitre. On constate quand même que souvent des joueurs, on le constate avec le sport professionnel, ne sont pas d'accord sur l'interprétation. C'est quoi? C'est la méconnaissance, c'est de la règle, ou c'est le refus de l'autorité? Parce que on a le sentiment que dans le sport professionnel, et on le voit dans les sports qui sont télévisés tels que le foot et le rugby, il y a de plus en plus de contestations de l'arbitre. Pourquoi ces attitudes?
Moi, je ressens, alors je vais parler uniquement du rugby, hein, je ressens pas une augmentation très importante des contestations. Elles existent, hein, je ne les cache pas, hein, mais je crois qu'avant tout, c'est aussi la porte qu'on va laisser ouverte aux joueurs. Je m'explique, un arbitre qui va être en permanence, lui, dans l'échange avec le joueur, mais sur tout sujet, pas que pour une explication de règles, va lui permettre de s'engouffrer, de mettre un peu le pied au travers de la porte pour pouvoir s'y glisser et venir le relancer incessamment. Mais si l'arbitre sait expliquer les choses avec, parfois, et ça c'est ça aussi le management, hein, savoir être un peu directif dans son explication, il ferme la porte à la communication et là on ne viendra pas contester sa décision. Si on ouvre trop la communication, c'est un peu comme un boomerang, hein, ça nous revient aussi en plein visage, si je puis dire. Donc, il faut trouver le juste équilibre, mais ça, c'est tout l'art de l'arbitrage, trouver le juste équilibre.
L'arbitre sur un terrain, est-il vraiment seul?
Ça dépend. Quand on écoute les tribunes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'arbitres. Plaisanterie à part, bien sûr qu'en secteur professionnel, il y a une équipe qui est là pour le seconder, pour l'assister, hein, puisqu'on appelle nos collègues les arbitres assistants. Mais par contre, dans des championnats plus régionaux, plus fédéraux, ben oui, effectivement, il peut être seul.
Oui, ça peut être compliqué quand vous avez sur des plus petits niveaux des joueurs d'équipe, de chaque équipe, qui officient comme juge de touche.
Tout à fait.
Voilà, et donc il n'y a pas la même assistance. Donc il y a peut-être un sentiment, oui, de solitude parfois quand on est arbitre. Est-ce qu'il doit, c'est le sens de ma première question, est-ce que ce n'est pas un rôle un peu ingrat d'être arbitre parfois quand vous allez officier sur des terrains de plus petit niveau où vous avez une certaine agressivité pas des joueurs, hein, mais du public, hein, qui siffle des noms d'oiseaux régulièrement. Est-ce que parfois l'arbitre est en danger?
Il peut, effectivement. Il faut reconnaître que les arbitres qui officient à ces niveaux-là, même si les arbitres méritent toute notre considération, la méritent davantage. Parce qu'effectivement, ils sont seuls. Ils ont davantage de procédures à gérer seuls. Aussi bien administrative que sportive, si je puis dire. Et effectivement, ils peuvent être amenés à être confrontés à des situations un peu plus compliquées, qui peut les amener à être un petit peu fragilisés. Donc ils ont d'autant plus de mérite que d'arbitrer en top 14.
La professionnalisation du sport et les enjeux économiques qui en découlent amène une forte pression du résultat sur les équipes et sur l'arbitre, qui est souvent, de plus en plus souvent, en première ligne quand une décision peut faire basculer un match. Est-ce qu'un arbitre professionnel est soumis à une forte pression et y a-t-il des problèmes d'intégrité qui peuvent exister dans l'arbitrage?
Alors, un arbitre, vous dire qu'un arbitre n'est pas soumis à la pression, ça serait vous mentir. Effectivement, il y a la pression, du stress, on va appeler ça comme on veut. Bien sûr qu'elle est existante parce que chaque coup de sifflet va être analysé, va être scruté, et il faut que la décision soit conforme à ce qui s'est passé. Mais là aussi, dans ce secteur-là, les arbitres travaillent en éthique et ont des outils pour ça. Toute décision difficile est prise quand même avec l'aide de l'arbitrage vidéo. Ça permet de faire retomber un petit peu la pression, de montrer les images qui se sont déroulées et prendre la décision la plus juste. Au niveau intégrité, bien sûr, vous ne m'entendrez jamais dire qu'un arbitre n'est pas intègre.
Ce qui est normal.
Voilà.
Selon vous, quelles sont les principales qualités d'un bon arbitre? En général, si on prend un arbitre, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel.
L'empathie, le sens de l'équilibre entre le jeu, les règles et l'esprit. Bon, bien sûr, c'est sa condition physique et la bonne compréhension de la situation.
Et l'écoute peut-être aussi.
Dès lors qu'on parle d'empathie, il y a l'écoute.
Le samedi 25 septembre 2021, Sarah Cox est devenue la première femme à arbitrer une rencontre de Premiership, qui est la première division anglaise de rugby professionnel, l'équivalent de notre top 14. La France a un petit peu de retard en rugby, même si une femme, Aurélie Groiselot, officie en Pro D2, par rapport au football, où Stéphanie Frappard a déjà, elle, arbitré des matchs de Ligue 1. La féminisation de l'arbitrage est-elle une question importante pour le directeur technique national des arbitres?
La féminisation de l'arbitrage est une priorité pour le DTNA que je suis. Effectivement, Aurélie Groiselot a officié pas plus tard que vendredi dernier sur son premier match de Pro D2. Cette désignation en appelle d'autres et on espère surtout qu'Aurélie sera l'ambassadrice de l'arbitrage français et que dans son sillon, elle va amener avec elle d'autres candidates à l'arbitrage pour pouvoir arbitrer comme Sarah Fox au plus haut niveau de l'échelon national.
Les joueurs, le monde du rugby est un peu macho, voient-ils d'un bon œil l'arrivée d'un arbitrage féminin sur les terrains professionnels?
Vous savez, l'attente des joueurs, c'est d'être bien arbitré. Qu'il le soit par un homme ou par une femme, le seul résultat, c'est d'être bien arbitré. Donc je ne pense pas que ce soit une préoccupation de la part des joueurs. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat concret et précis.
Y a-t-il plus de femmes arbitres dans les championnats féminins?
Alors, nous essayons de couvrir nos championnats féminins par des arbitres femmes, mais pas que, parce que on n'a pas la volonté de classer, si je puis dire, en fonction du sexe. Je crois que dès lors que l'on porte un costume d'arbitre, on doit être apte à arbitrer n'importe quelle catégorie de rencontre.
Donc, homme comme femme.
Homme comme femme, on brasse.
Aujourd'hui, il y a une véritable ouverture d'esprit là-dessus. Il n'y a pas un manque de vocation aussi, peut-être, du public féminin pour aller vers l'arbitrage?
Tout à fait. Par contre, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une priorité. Donc, effectivement, on a une volonté de recruter maximum d'arbitres, mais bien sûr, maximum d'arbitres au féminin. Et pour cela, moi, j'invite chaque candidat et candidate à cliquer sur une seule adresse, jeveuxarbitrer@ffr.fr, et elle sera mise en relation avec les dirigeants de l'arbitrage pour commencer cette aventure qui, au travers d'une aventure sportive, est une véritable aventure humaine.
Peut-on commencer l'arbitrage à n'importe quel âge?
J'aurais envie de vous dire oui. Mais il y a quand même des limites. Ne venez pas non plus trop tard. Alors, certes, si les discours de nos politiques, c'est de travailler davantage, je crois qu'il faut quand même avoir une bonne forme physique pour arbitrer. Et nous avons quand même des règlements généraux qui classent l'âge limite de la compétition. Mais oui, on peut venir à n'importe quel âge. Et d'ailleurs, moi, là aussi, j'ai envie de dire aux anciens joueurs, venez continuer l'aventure car vous serez de véritables acteurs sur le terrain. Après avoir joué, vous dirigerez des rencontres et croyez-moi, c'est vraiment passionnant et on est vraiment acteur au cœur du jeu.
Alors, on parle de forme physique. Les sportifs qui pratiquent un sport s'entraînent souvent, plusieurs fois par semaine. Un arbitre a-t-il également besoin d'être en bonne condition physique? Et je vous pose la question, notamment quand on regarde un match international, quel que soit le sport, il y a un nombre de courses effrénées. Est-ce que c'est un point très important? En fait, les arbitres sont des athlètes de haut niveau.
Les arbitres sont des athlètes de haut niveau, effectivement. Et un arbitre doit être en excellente condition physique. Alors déjà, pour suivre les situations, mais aussi pour prendre la décision. Il doit avoir une décision importante à prendre au cours d'un match. Il faut que son cerveau soit correctement oxygéné. S'il est en souffrance physiquement, il n'aura pas la démarche intellectuelle nécessaire pour prendre la bonne décision. Donc effectivement, si je puis dire, c'est un package pour que les décisions soient prises sur le terrain et permettre au jeu de continuer.
La technologie a fait son entrée dans le monde de l'arbitrage depuis une vingtaine d'années. Alors en 2001, pour les matchs internationaux de rugby, en 2006 en Top 14, plus récemment le VAR dans le football. En quoi ces nouvelles technologies ont-elles modifié l'arbitrage? Et il y a une question qui fait débat en ce moment, c'est les micros qui pourraient être portés par les arbitres dans le milieu du football. Là, le rugby est en avance. Est-ce que ça a changé considérablement la façon d'arbitrer?
Ce sont des outils, notamment la vidéo, d'aide à la décision. Effectivement, la vidéo permet de corriger les erreurs, parce que bon, un arbitre se trompe, c'est un homme, il peut se tromper. Et la vidéo lui a permis de corriger les erreurs d'arbitrage et de rendre donc la décision la plus juste. On évoquait tout à l'heure le principe de l'économie au sein de ce sport. Effectivement, quand on prend une bonne décision, on stabilise ce système économique. Quand on se trompe, malheureusement, on le fragilise. Donc ça a répondu positivement. En ce qui concerne les micros, c'est un super outil pédagogique aussi. L'arbitre va commenter, va éduquer, donc, au travers de ce micro, non seulement les joueurs, mais également les téléspectateurs. J'allais dire aussi les spectateurs, mais bon, eux, malheureusement, ils n'entendent pas ce qui se passe quand ils sont au stade. Mais ça va éduquer tout le monde et ça va permettre à tout le monde d'améliorer sa communication. Le micro va nous imposer d'avoir une communication adaptée à la situation. Et je trouve que le débat qu'il y a autour de ces micros, pour moi, est un faux débat, car ça avantage tout le monde.
Oui, plus de clarté dans les relations sur le terrain et dans les échanges. La vidéo donc, a cet avantage, comme vous le disiez, d'avoir une application juste et stricte des règles. Elle peut être frustrante pour les nostalgiques du rugby d'antan, où quand la vidéo est installée dans le rugby, dans les premiers temps, si je ne me trompe pas, on arbitrait uniquement les phases de jeu qui se déroulaient dans l'embute. Oui. Aujourd'hui, on arrive à revenir sur 5, 6, 7 temps de jeu en arrière. Est-ce que ça dénature pas un peu la beauté de l'action, quand bien même il y aurait une petite faute au départ qui soit justifiée, et ça remet en cause finalement tout le sens du jeu qu'on veut plus ouvert dans notre sport, le rugby, et voilà, avec un peu de frustration, finalement, comme vous l'avez dit, l'erreur est humaine, donc l'arbitre peut se tromper et ne pas avoir une faute de jeu.
La vidéo a été demandée par les plus grandes, par les nations majeures, hein, et par les plus grands clubs des divers championnats domestiques pour préserver justement l'économie dont on a évoqué tout à l'heure. Effectivement, on pourrait dire que les nostalgiques vont regretter le temps où seul l'arbitre était maître à bord, un peu comme un capitaine sur son bateau. Mais il reste quand même maître à bord l'arbitre, parce que c'est lui qui va faire appel à la vidéo, ou un de ses assistants, bien sûr, pour prendre la décision. Mais la décision finale lui appartient. Après, nous avons un protocole qui cadre quand même les situations. On ne peut pas appeler l'arbitrage vidéo pour n'importe quelle raison. On va pouvoir l'appeler pour vérifier du jeu déloyal. Et là, ben, ça permet de dire que quand même la vidéo a éradiqué les mauvais gestes qu'on pouvait voir sur un terrain de rugby. Et elle va permettre aussi de vérifier la conformité d'un essai. Et pour ça, on peut remonter jusqu'à deux situations de regroupement avant la faute. Bon, ça peut paraître, comment dirais-je, un peu excessif pour certains, mais en attendant, ça permet de prendre la bonne décision. Vous savez, les arbitres, ils sont entre le marteau et l'enclume. On leur reproche parfois de trop faire appel à la vidéo, mais quand ils ne l'appellent pas et qu'il se passe une situation, on leur reproche de ne pas l'avoir appelé. Donc là aussi, à eux de trouver le bon équilibre. Mais il vaut mieux une décision bonne avec la vidéo que vouloir arbitrer comme on le faisait il y a 20 ans en arrière et se tromper.
Revenons au niveau amateur et professionnel. Quelles sont les principales différences entre l'arbitrage de haut niveau et le niveau amateur?
On vient tout au long de cet entretien un peu l'exprimer. Hein. Bon, bien sûr, il y a les outils d'aide à la décision, hein, dont on vient de parler, la vidéo, mais aussi il y a une équipe au niveau professionnel. Il y a une équipe qui va officier sur un match. Au niveau amateur, ben, parfois l'arbitre est seul, souvent même l'arbitre est seul, et il doit gérer pratiquement les mêmes règles de rugby. Donc c'est vrai que la différence, elle est là. Après, nous avons au secteur professionnel un rugby qu'on doit qualifier de plus spectacle, et l'arbitre participe également à ce spectacle.
Existe-t-il un syndicat des arbitres?
Et non, il n'existe pas de syndicat d'arbitres. Nous avons l'Union nationale des arbitres de France, mais qui est plus là pour soutenir les arbitres en cas de difficultés. Difficultés pratiques. On a eu dernièrement un arbitre qui, est sur le retour d'un match, a eu un grave accident de circulation. Bon, mais notre association, donc l'UNAR, est là aussi pour l'accompagner dans toutes les démarches nécessaires à cet accident. Mais un syndicat comme possèdent d'autres sports, non, il n'y en a pas.
Non, parce que dans votre sport, les entraîneurs
Oui.
il y a un syndicat des entraîneurs, il y a un
Oui.
syndicat des joueurs,
Oui.
mais pas des arbitres.
Non, il n'y en a pas, non.
L'arbitre est-il professionnel en France dans le rugby?
Alors, nous avons des arbitres professionnels, hein, nos arbitres internationaux sont professionnels et salariés de la Fédération française de rugby. Et dans la même division, nous avons des arbitres qui ont un statut, si je puis dire, d'amateur. Et qui ont d'autres activités professionnelles. Vous avez Thomas Charabas qui est médecin urgentiste. Vous avez Tual Trenini qui est ingénieur chez Airbus. Vous avez Vincent Blasco qui est chirurgien dentiste. Voilà, puis bon, je ne vais pas vous citer toutes les professions de nos collègues, mais ils ont un statut d'arbitre amateur, quoi, si je puis dire.
Vous avez été arbitre pendant longtemps. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'arbitre?
Ah, j'en ai des tas, moi, d'excellents souvenirs, de meilleurs souvenirs. Je crois que ce que je garde, moi, de l'arbitrage, un bon souvenir, c'est non pas une désignation, non pas un match, non pas un événement, c'est l'excitation. Je fais partie d'une génération, moi, qui recevait les convocations par la poste. Et je fais un petit clin d'œil encore à notre partenaire en même temps. Et donc, c'était l'excitation à l'ouverture de l'enveloppe, de savoir où on allait et quel match nous allions diriger. Et quel que soit le match, et c'était plus cette excitation-là, et ça, c'est un excellent souvenir parce que dès la réception de l'enveloppe, ça nous plongeait dans le match et on commençait à préparer cette rencontre. Après, l'arbitrage, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est avant tout une aventure humaine avec de très belles rencontres.
Et puis ça permet pour des personnes qui n'ont pas le niveau pour être de grands joueurs internationaux, peut-être aussi de participer à cette vie internationale en arbitrant des matchs européens, mondiaux et permettre de voyager. C'est-à-dire que l'arbitre aussi peut avoir cette chance à travers cette fonction.
Eh bien, exactement, on peut prendre, et ce n'est pas lui faire d'ombre à son parcours, hein. On peut prendre l'exemple de Jérôme Garcès qui a arbitré la dernière finale de la Coupe du Monde. Bon, il a joué en troisième division, donc il sait très bien qu'il n'aurait jamais été un joueur international. Par contre, au niveau arbitrage, il a une carrière remarquable, remarquée et enviée.
Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de syndicat des arbitres, mais existe-t-il des échanges entre les arbitres des différentes fédérations sportives? Échangez-vous avec les arbitres du football, du basket, du handball? Bien que les règles ne soient pas les mêmes, vous avez, j'imagine, des similitudes dans vos fonctions, dans les positions à avoir et dans des situations que vous rencontrez.
Malheureusement, pas assez. Alors, je pense qu'on est tous pris par nos emplois du temps très chargés. Alors, ponctuellement, si on a besoin d'une information, on va se contacter. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'échange pas assez entre nous.
Que diriez-vous aujourd'hui à un jeune pour qu'il se lance dans l'arbitrage? Donnez-lui envie.
Alors déjà, qu'il n'hésite pas une seconde, qu'il vienne, qu'il clique sur la fameuse adresse que j'ai citée tout à l'heure, hein, il verra que c'est une école vraiment de la vie. Il va prendre plaisir sur un terrain, il va être vraiment un acteur du jeu, un acteur majeur. Vous savez, et c'est là aussi, je ne veux pas vexer nos copains entraîneurs, hein, mais quand on est entraîneur, on prépare le match, mais après, on le subit le match. Alors qu'un arbitre, pendant le match, lui, il va le diriger, le match. Il va le vivre pleinement. Il va prendre énormément de plaisir. C'est une façon... Siffler, c'est aussi jouer. Hein. Donc, il va prendre énormément de plaisir et en plus, il va faire de belles rencontres, il va faire de beaux déplacements et je crois que ça va le construire en tant que personne aussi. Donc, il
Donc.
n'hésite pas une seule seconde.
Franck Massiello, merci pour cet éclairage sur la fonction d'arbitre, qui, si elle n'est pas la star du jeu, en est le chef d'orchestre d'une partition qui, comme vous, Franck, peut l'amener de top chef au top 14 et qui, nous l'espérons, générera des vocations d'arbitre chez les jeunes générations.
Merci beaucoup.
Tout Terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.